Actuellement, par rapport à mes recherches, on a des points de similitude avec d'autres recherches sur un plan international et on a des points qui ne sont pas conflictuels, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Mais en tout cas, dans les extrêmes, on sait par exemple que des résonances graves avec la voyelle ou, par exemple, bon, eh bien, on va pouvoir travailler les résonances du bassin. On va pouvoir travailler les résonances au niveau coccygien. On sait aussi que lorsqu'on va émettre un i dans l'aigu, eh bien, on va ressentir, on le fera tout à l'heure, on va ressentir une résonance au sommet du crâne. Alors, entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a toute une série de techniques qui rejoignent la tradition où on n'est pas toujours forcément d'accord sur le positionnement de telle voyelle au niveau du corps. Mais c'est déjà important. On a le ou, on a le i au sommet du crâne, on a déjà constitué en quelque sorte l'axe sonore, l'édifice sonore. Parce que une personne qui vient me voir, par exemple en séance individuelle, eh bien, j'ai envie de savoir comment elle résonne et de la mettre dans un état modifié de conscience pour qu'elle puisse, en début de séance, me sortir un son spontané. Non pas le son qui sera esthétiquement correct, non pas le son que l'on va émettre parce que, ayant peur du ridicule, on ne va pas oser émettre tel son ou tel son. Non, le son qui, intuitivement, instinctivement, spontanément, vient à nous. Et ce son qui vient à nous, ça m'intéresse parce que il va être émis sur une certaine fréquence. Et cette fréquence particulière, pour moi, va correspondre à quelque chose, et également la voyelle qui va être émise, la consonne peut-être qui va être émise. Si la personne, pour moi, émet un A, par exemple, c'est cette recherche de l'expression, cette ouverture au niveau du plexus laryngé. Il est évident que si elle va émettre également un M, il y a cet aspect maternant, maternel. Donc la consonne va être importante, la voyelle aussi. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle moi, note personnalité, c'est-à-dire une note qui va, au fur et à mesure des séances, se retrouver. Il va y avoir une réitération de cette fréquence. Et on va pouvoir dire, voilà, cette personne, elle résonne sur telle tonalité, tel son, telle voyelle. Alors, cette voyelle, c'est un peu un appel. Elle a envie, par exemple, par la voyelle A, d'aller plus loin dans son expression. Et bien sûr, au fur et à mesure de la séance, qu'on ne peut pas détailler aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres voyelles qui vont être émises, il va y avoir d'autres sons. Et puis, à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a des sons de voyelles qui ne sont pas du tout émis. Et c'est justement sur ces sons de voyelles-là qu'il va falloir aussi travailler. Donc, la voix révèle à la fois nos envies, nos potentialités, mais aussi révèle nos zones d'ombre. Qu'est-ce qui surgit de nous quand on va chanter un son spontané? Ça paraît rien, mais quand on s'immerge dans ces bains de son, eh bien, on a souvent beaucoup de surprises, des émotions qui reviennent à la surface. C'est pour cela que les premiers temps de la musicothérapie, dans les années 60, on n'utilisait pas beaucoup la voix, parce qu'on disait que la voix, c'était difficile à canaliser au niveau des émotions, et on préférait, donc à l'époque, on le fait toujours, mais une musicothérapie passive avec donc trois œuvres qui vont être choisies et écoutées donc dans un certain ordre. Donc on est passé à une musicothérapie active, mais dans ce travail de musicothérapie active, la thérapie vocale s'inscrit encore dans une autre démarche, c'est-à-dire que le patient est son propre thérapeute en quelque sorte. il est à la fois le révélateur et aussi la personne la plus habilitée à pouvoir aller plus loin. Alors bien sûr, il faut qu'elle soit guidée par un thérapeute, mais après, elle a des outils. La thérapie vocale permet d'avoir des outils d'autonomie par rapport à la voix. Donc, exploration de ces différentes traditions, ça passe donc du chant des voyelles qui rejoint bien sûr le chant, les chants antiques des voyelles au niveau des Grecs, par exemple, les chants pythagoriciens. Ça rejoint donc, comme j'en parlais tout à l'heure, les chants d'Asie centrale, les chants diphoniques, et également tous les chants et les sons de purification, entre guillemets, qui sont les sons taoïstes, où là, les sons taoïstes sont des sons, entre guillemets, on pourrait plutôt dire des expirations sonores. C'est-à-dire à partir de certains mouvements, de certains exercices, on va expirer un souffle, on va expirer une certaine forme d'énergie. On va peut-être faire une expérience, ça sera, je pense, plus parlant et en tout cas plus chantant. Je vais vous proposer donc de bien vous installer dans votre chaise et de bien cette installation elle est importante parce que on doit déjà bien sentir l'équilibre entre la fesse gauche la fesse droite, sentir que on est bien enraciné, c'est-à-dire bon que dans les stages on va plutôt travailler au sol où on va sentir la résonance du sol, résonance qui est importante. Et là, bon, on va essayer de la sentir, cette résonance, avec à la fois le positionnement des orteils, des talons, sentir comment ce lieu résonne, ce sol résonne, et également sentir qu'il y a donc une résonance qui monte le long des membres inférieurs et qui s'installe au niveau du bassin, dans toute la zone abdominale. Donc, on peut, pour bien visualiser cette zone abdominale, fermer les yeux et sentir que le souffle, naturellement, trouve son creuset, son énergie vitale dans cette zone abdominale, non pas simplement dans la zone abdominale, mais comme si on pouvait imaginer une sphère transparente qui reposerait sur le bassin et qui augmenterait de volume sur chaque inspiration et qui diminuerait de volume sur chaque exhalaison.